Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Comment ça va Maxime Dupuis?
On est sur l'intro la plus rapide de l'histoire, ça va très vite, c'est très fort.
Alors là on va se calmer tout doucement parce que bon, demain donc mercredi, France-Maroc, demi-finale de la Coupe du Monde et il y a plein d'enjeux. C'est-à-dire que si la France se qualifie, ça
si
peut
faire...
Si la France se qualifie, ça peut faire deuxième finale consécutive, il y a des mecs qui peuvent devenir double champion du monde, ça peut être incroyable.
Je sais ce que tu veux dire.
Mais le plus gros enjeu... Et c'est pour ça qu'il faudra absolument écouter le FC Stream Team. On va placer ça jeudi.
Ah non, tu me laisses jusqu'à dimanche.
Ok, je te laisse jusqu'à dimanche. Il y a un internaute qui est venu me voir sur Twitter et qui m'a envoyé ce petit message. Bonjour, je voudrais vous rappeler que si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, Maxime Dupuis doit chanter pendant une minute dans le FC Stream Team. Par ailleurs, j'ai pu négocier avec lui en cas de qualification pour la finale. Et là, il m'envoie donc un dialogue entre lui et Maxime. Ce monsieur qui dit à Maxime, j'aimerais négocier. Si la France va en finale de la Coupe du Monde, vous chantez pendant 30 secondes dans le FC Stream Team, d'accord? Et là, Maxime qui lui répond, allez, adjugez. Donc, j'ai la copie écran. Donc, si l'équipe de France remporte sa demi-finale face au Maroc, vous aurez 30 secondes de chant de Maxime Dupuis. Qu'est-ce que tu nous chanteras, Maxime?
J'ai pas réfléchi encore. Il y a une demi-finale à jouer.
Ouais. Tu peux nous chanter la Marseillaise?
C'est pas le plus dur. Hein.
Non, c'est pas le plus dur.
Mais ce qui est dur, c'est que tu vois... Tu discutes avec des gens, tu vois, c'est sympa.
Mec, c'est un collabo, il est revenu vers moi,
Il a fait la copie écran, ouais. Il a tout. Je vais vérifier tous mes messages parce que pourvu que j'ai jamais. Non, je déborde pas, moi.
Non, toi, tu débordes pas. Mais en tout cas, donc, si vous vous foutez du match ou si vous êtes franco-marocain, que vous attendez la petite chose qui vous fasse basculer d'un côté ou de l'autre, là, je crois qu'on a trouvé. Vous serez forcément pour l'équipe de France. Car Maxime qui pousse la chansonnette, je crois, autant moi, je me laisse parfois aller à ma nature un peu. Sud-méditerranéenne et j'aime pousser la chansonnette.
Le mec il est né au-dessus de la Loire.
Né en dessous de la Loire.
Non, au-dessous, est-ce que j'ai dit?
Ah oui, pardon.
Et le mec il se prend pour un méditerranéen.
Mais je suis un méditerranéen et voilà, autant moi il m'arrive de temps en temps, j'aime bien chanter puis j'ai un bel organe, je dois le dire. Autant Maxime on l'a jamais entendu. Donc là, c'est le gros enjeu de France Maroc.
Tu sais que je chante très souvent moi.
Oui, mais jamais
chez moi.
Et voilà. Jamais en compagnie de... je sais pas, vous êtes des milliards à nous écouter. Donc,
au moins. Et oui, et dans la rédaction aussi. Oui, parce que tu dis ça, mais...
C'est vrai que tu peux chanter dans la rédaction.
Je pousse un peu la chansonnette, l'opéra même, on peut dire.
L'opéra, mais bon, voilà, quoi. C'est le gros enjeu de ce France-Maroc. J'ai d'ailleurs envoyé un message à Didier Deschamps qui fera passer aux joueurs juste avant le coup d'envoi, histoire de les motiver une dernière fois, tu vois.
Alors, je vais quand même ce soir retourner voir la discussion.
Non, mais je sais plus quand
je lui ai dit ça. Ça se trouve, c'était avant la dernière finale
de Coupe
du Monde.
C'était le 18 octobre 2021.
Ah ouais, là, c'est une grosse connerie. Alors.
C'était il y a un an.
Un an?
Bah ouais, c'était il y a plus d'un an. Ouais, c'était il y a plus d'un an.
Faut que je retrouve tout le.
Le mec est revenu, il a pas oublié quoi.
Non, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté récemment d'ailleurs. Parce qu'on s'envoie des petits messages pour discuter football.
Ouais, voilà. Il se la raconte. Genre, il y a des mecs qui viennent le chercher. Ouais, attends, moi j'apprends le football un peu aux internautes.
Non, j'apprends le football.
Je leur réponds
deux,
trois petits trucs.
On parle comme ça, voilà. Mais.
Non, bah après, t'as le droit de te la raconter. T'es quand même Maxime Dupuis. T'es pas n'importe qui, t'es quand même Maxime Dupuis. Bon, Maxime, demain il y a une demi-finale de l'équipe de France de football. Voilà.
Gros enjeu d'ailleurs.
Gros enjeu. Et alors?
Tu te rappelles plus des sujets?
Si, je me souviens tout à fait des sujets. Je peux te les sortir les trois à la suite comme ça. Oui. Et donc, on va parler évidemment de ce match autour de trois axes. Le premier, c'est une nouvelle mauvaise. On attend pour savoir si elle est mauvaise ou non. Qui est tombée ce mardi. Dayot, Upamecano et Adrien Rabiot absents de l'entraînement. Et on va se poser cette question. Est-ce que ce serait... on va essayer de mesurer à quel point ce serait un coup dur l'absence de l'un, de l'autre ou des deux dans notre premier
Et
sujet.
Toi, tu dis Dayot alors?
Dayot. Toi, tu dis quoi?
Dayot.
Dayot ou quoi?
Dayot. Ok. C'est comme Kingsley comment et non pas qu'il sait comment. Ça, j'ai,
exactement,
j'ai
c'est comme
mais c'est comment.
Mbappé et non Mbappé.
Voilà. Cours de prononciation, je croirais dans le goût des autres.
Et on pourrait faire une stream team spéciale
prononciation.
Prononciation des noms.
On croirait dans le goût des autres, le film avec Jean-Pierre Bacri.
Tout à fait, un excellent film. Exactement. Voilà.
Deuxième sujet, on parlera toujours de l'équipe de France, évidemment, mais de la clé du match. Et pour nous, cette clé du match, elle est peut-être entre les pieds ou sur le crâne d'Olivier Giroud.
Plus sûrement sur le crâne, d'ailleurs. Ouais. Et on terminera avec ce qui menace le plus les Bleus face au Maroc. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'ambiance incandescente qu'on annonce du côté du Qatar ? Est-ce que c'est ce milieu Amrabat qui a l'air de déplacer des montagnes ? Est-ce que c'est ce statut de favori qu'il va falloir se coltiner ? Bref, restez avec nous jusqu'au bout. Maxime ne chantera pas, mais Maxime sera, comme toujours, excellent. Je sais pas, des fois je démarre des phrases, je sais pas où
ouais,
je vais.
Ouais, mais bon, moi aussi. Hein.
Ouais, mais toi ça se voit, moi ça se voit moins. Là, ça, c'est...
Ah là, ça se sentait pas mal quand même.
Là, ça s'est senti, ouais.
Donc on démarre la mauvaise nouvelle du jour. Alors on avait commencé, elle avait commencé lundi, puisque lundi, Aurélien Tchouaméni n'était pas à l'entraînement collectif et Dayo Upamecano non plus. Et il se trouve que ce mardi à J-1, donc dernier entraînement de l'équipe de France, celui où habituellement il y a la fameuse mise en place tactique où l'on sait à peu près qui sera titulaire le lendemain, Dayo Upamecano et Adrien Rabiot ont manqué à l'appel. Et évidemment, cet entraînement, c'est toujours particulier parce que c'est le dernier, donc on s'inquiète un peu. Et on sait que dans la mise en place tactique, on jouait à leur place parce qu'il en fallait bien deux. Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté. Alors Martin, je vais te poser une première question. Est-ce que tu es inquiet ?
Oui. T'as une deuxième question ? Non, oui. Évidemment qu'on est inquiet. Pourquoi ? Parce que rater un entraînement à J+1 ou J+2 d'un gros match, quart de finale, huitième de finale, c'est arrivé à Kylian Mbappé, je crois que c'était après le match face à la Pologne où il a fait du vélo en salle. Bon, ça s'entend, ça se comprend. Rater un match à la veille, la mise en place, la dernière mise en place avant une rencontre et avant une demi-finale de Coupe du Monde, là oui, disons que le degré d'inquiétude augmente d'un cran. Surtout pour Dayo Upamecano qui était déjà absent lundi, donc ça fait deux entraînements de suite. Donc finalement, il n'y a eu que dimanche, le décrassage de dimanche. Et là, oui, pour Dayo Upamecano, ça commence à faire beaucoup. L'équipe nous apprend que les deux hommes sont malades, des maux de gorge, sans donner plus de détails sur ce mal de gorge. Mais évidemment que je suis inquiet, Maxime, et je pense qu'on doit l'être.
Alors, je ne sais pas si je suis inquiet. Pour le J-1, ce n'est pas anodin, ça c'est sûr. J-1 et J-2, oui, les deux entraînements manqués par Upamecano, c'est embêtant. Maux de gorge, nous dit-on. En fait, ça veut tout et rien dire. Ça se trouve, il a chopé un rhume et il vaut mieux le laisser au frais. Et voilà. Et si ça se trouve, tout va bien aussi. C'est-à-dire qu'il fallait ces deux jours-là. Et je ne suis pas trop inquiet s'ils devaient jouer demain soir pour le rythme. Parce qu'ils sont quand même dans un rythme de compétition qui est assez soutenu. C'est en plein milieu de la saison aussi. Ce n'est pas une Coupe du Monde en fin de saison. Donc, ça m'inquiète moyen. Et Rabiot, ce serait un coup de froid. Encore une fois, la clim fait des ravages à Doha. Et c'est sûr que coup de froid, ça veut tout et rien dire. C'est le nez qui coule. Mais ça peut être aussi les bronches prises. Et là, c'est plus embêtant quand on doit courir, quand on doit avaler du terrain comme Rabiot. Si on doit les remplacer, évidemment, je suis un peu moins inquiet pour la défense parce qu'on avait vu Ibrahima Konaté au premier match jouer axe droit, c'était plutôt bien. Axe gauche avec Varane contre la Tunisie. Et pour le coup, lui, il avait tenu la baraque.
C'était
le seul à avoir été bon alors que Varane avait fait son plus mauvais match du tournoi. C'était le deuxième après la reprise, c'était pas terrible. Au milieu de terrain, Youssouf Fofana, c'est sûr qu'il y aurait un gap déjà parce que ce Rabiot, c'est un Rabiot qui est formidable, qui est sans doute ce qui se rapproche le plus, on va dire, en termes de niveau, de hauteur niveau, ce qu'a fait Emmanuel Petit pendant la Coupe du Monde 98, c'est-à-dire qu'il fait un très grand tournoi. Et c'est sûr que passer avec Fofana, qui a montré moins de choses, ce serait moins bien, et parce que Rabiot, tout simplement. Mais je ne suis pas encore à être complètement inquiet. Voilà. Je serais vraiment inquiet s'il y avait eu un coup, s'il y avait un petit pépin musculaire. Là, je me dis que, bon, dans l'absolu, bien soigné, un petit rhume, ça peut passer.
Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que peut-être où il y a le moins d'écart de niveau entre les remplaçants et les titulaires de cette équipe de France, c'est peut-être au poste d'Upamecano avec Konaté. Parce qu'ils ont démarré tous les deux le premier match. Ils ont tous les deux été très bons. Comme tu l'as dit, Konaté face à la Tunisie, c'était très bon aussi. Et j'ai l'impression qu'il a pris la mesure de ce mondial. Ce qui n'est pas le cas de Fofana. C'est-à-dire que Fofana, lui, il avait été très bon avant le mondial, en septembre, pour ses deux premières sélections. Alors, depuis qu'il est au Qatar, ses entrées en jeu, c'est difficile de le juger parce que c'est, entre 7 et 20 minutes. Donc bon, difficile de juger. En revanche, on l'a vu face à la Tunisie. Et il n'a pas été bon du tout. C'est-à-dire, c'est lui qui perd le ballon. Derrière, son attitude n'est pas bonne aussi sur Kasri. Et si la France encaisse un but, il est en partie... Enfin, il est responsable même quasiment, j'allais dire, à 60%. Donc, ben, moi, Fofana, ça m'inquiète beaucoup plus, effectivement, que Konaté. Et puis, oui, Rabiot. En fait, Rabiot et Upamecano, pour moi, ce sont les deux révélations françaises de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que... Oui, Griezmann, dans un sens, mais bon, Griezmann, on le connaît. Mbappé, c'est pas une surprise. Varane, Koundé et Théo Hernandez n'ont pas montré suffisamment jusqu'ici. Vraiment, les deux grosses surprises de cette Coupe du Monde. Et ceux peut-être qui ont fait que cette équipe est plus forte que ce à quoi on s'attendait, c'est peut-être Upamecano et Rabiot. Donc là, tu te prives potentiellement, on n'en est pas là encore, mais de tes deux grosses surprises de début de tournoi. Et oui, forcément, je pense que ça va impacter le niveau général de l'équipe, pour toutes les raisons qu'on a dit, plus Rabiot que... Mais tu vois, ce passé du guerrier Rabiot face au Maroc, qui a fait du milieu de terrain, peut-être là, on parle beaucoup de la défense hein, du Maroc, mais là, le milieu de terrain, l'activité, le volume de jeu du terrain marocain, je pense qu'il vaut mieux avoir Rabiot, qui est peut-être le plus gros guerrier de cette équipe. Et si on m'avait dit ça il y a un mois, je pense que voilà, je pourrais rayonner, Maxime. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le guerrier de cette équipe de France, c'est Rabiot. Partir à la guerre au Maroc, face au Maroc, sans son principal guerrier, oui, d'un coup, j'ai des sueurs froides.
Ce passé de Rabiot pour Fofana. Alors Fofana, t'as raison sur son attitude, et ça, quelle que soit l'équipe, c'est pas très bien. Je crois que c'est Varane d'ailleurs qui avait un peu relevé l'attitude en disant que Mandanda n'était pas le seul responsable du but pris, et que, ou à moins que ce soit l'urisme. En tout cas, ça avait été relevé. Après, c'est vrai qu'il est dans une équipe bis, mais on peut en plus déplacer le problème, c'est-à-dire que si demain l'équipe de France démarre avec Fofana et Konaté, ça veut dire qu'a priori on ne peut pas compter sur Rabiot et Upamecano. Donc, s'il y a un coup dur ou des remplacements à faire, ça recule aussi sur le banc.
Ah oui, là, c'est Guendouzi.
Sur le banc, donc il reste Guendouzi, Verretou.
Camavinga.
Et là, on sort vraiment. Alors, ce n'est pas comme l'anglais à l'Euro, mais on sort vraiment des types qui sont vraiment dans le formol et qui sont devenus autant. Le discours officiel sera toujours de dire non, mais ils sont là, ils tiennent prêts. Ils ont quand même un peu basculé comme un pavard, voilà, tout simplement. Et c'est sûr que si demain, il y a un souci au milieu de terrain qu'il faut les sortir du banc, bah, ce n'est pas la même chose. Et même s'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'un banc qui ne tourne pas... Alors, Didier Deschamps n'a pas fait tourner contre l'Angleterre, hormis Coman qui est rentré à la toute fin de match. Il y a quand même peu de chances qu'il fasse deux matchs de suite avec un seul remplacement. Donc, il y aurait sûrement besoin d'aller chercher un milieu de terrain sur le banc. Ben voilà, ce ne serait pas forcément l'idéal. Et c'est aussi là, peut-être, que le plus gros gap se verrait entre Rabiot, Fofana et celui qui supplérait l'un des milieux de terrain.
Et moi, je pense que, alors on en parlera peut-être dans le troisième sujet, je pense vraiment que ça va se jouer à l'énergie, ce match. Autant niveau d'ailleurs marocain que français, je pense que ça va être une des clés de ce match. Et encore une fois, je pense qu'enlever Rabiot, qui est la plus grosse batterie de cette équipe-là, avec Griezmann, je pense que... t'enlèves un peu d'autonomie à cette équipe de France quand même, et qu'effectivement tu passes à Fofana, et derrière c'est des mecs qui sont devenus des animateurs, hein, qui sont plus des joueurs de foot. Quand on voit les... Mais après on peut pas leur en vouloir, qu'ils aient un peu débranché, qu'ils soient passés de l'autre côté, on peut pas leur en vouloir. Mais voilà, si de toute façon c'est ce qu'on dit depuis le début de cette Coupe du Monde, à partir du moment où tu vas toucher à des membres du 11 de cette équipe de France, et tu vas mécaniquement être beaucoup plus exposé. Et encore, on a du bol, entre guillemets, si ça tombe sur Upamecano, parce que derrière, il y a une solution fiable. Si ça tombe sur d'autres, ça serait beaucoup, beaucoup plus enquiquinant.
Et ce que tu as dit pour l'animation, ce n'est pas du tout un reproche. Bien au contraire, c'est-à-dire qu'en 2018, l'équipe de France gagne aussi grâce à ça. Il y a besoin d'avoir des remplaçants qui ne tirent pas dans les pattes. On ne peut pas tout avoir, en fait. Des ultra-compétiteurs qui veulent mordre les mollets des titulaires ou des gens qui y accompagnent. Il y a besoin de ces gars-là qui mettent de la bonne humeur et qui vivent une grande aventure. Ils savent ce qu'ils ont à gagner. Donc, le corollaire à ça, c'est de dire peut-être qu'il y a un moment, comme tu dis, ça bascule un peu quand on voit qu'ils ne jouent pas, qu'ils n'entrent pas. Prenez le cas d'un Saliba, d'un Guendouzi, on ne peut pas leur demander. Alors, ils sont concernés, ils crèvent d'envie de rentrer, même si peut-être qu'à un moment, on se dit qu'il vaudrait mieux plus rentrer parce que ça devient compliqué.
Comme Rami en finale.
Voilà, tout simplement. Mais c'est sûr que de perdre les deux-là, ça oblige à aller puiser un peu plus loin dans le vivier. Ce n'est pas forcément évident.
Alors, lui démarra, Maxime.
A priori.
Il démarra.
Ce serait la grosse surprise.
Ce serait la grosse surprise. Olivier Giroud. qu'on estime être la clé de cette demi-finale de la Coupe du Monde face au Maroc. Pourquoi ? Alors, jusqu'ici, en 320 minutes de jeu, hein, me semble-t-il, face à ce qui se fait de mieux ou presque dans le monde, c'est-à-dire la Belgique, l'Espagne, la Croatie et le Portugal, en 320 minutes de jeu, l'équipe du Maroc a pris 0 but. Donc la clé, ce qui est clair dans ce match-là, ce sera pour l'équipe de France de mettre un but le plus vite possible sous peine de faire grossir l'adversaire adverse, sous peine de faire grossir Bounou qui va prendre de plus en plus de place dans la cage. On le connaît ce scénario, c'est grosso modo le scénario de France-Paraguay en 8e de finale de la Coupe du Monde 98. Donc déjà, dans cette perspective-là, Giroud est un élément essentiel de la qualification des Bleus. Mais en plus, quand on se souvient des matchs face aux adversaires que j'ai nommés, l'Espagne n'avait pas d'avant-centre, voilà, jusqu'à ce que Morata rentre. Le Portugal, il y avait un Ramos, mais qui était vraiment en deçà, qui n'occupait pas vraiment le rôle de point de fixation dans la surface adverse. Kamaric, avec la Croatie, c'était moyen et on ne peut pas dire qu'il ait fait un match exceptionnel face aux Marocains. Et les Belges, ça a démarré avec Michy Batshuayi, qui est plutôt un attaquant de profondeur. Ça n'a pas marché. Mais dès que Lukaku est rentré en jeu, sorte d'armoire à glace, dont le profil est celui finalement qui se rapproche le plus d'Olivier Giroud, ça a posé des problèmes à la défense du Maroc. Donc je pense que cette équipe marocaine va être emmerdée par Olivier Giroud et je pense que c'est celui qui peut causer le plus de soucis à la sélection de Walid Regragui.
Alors tu l'as dit, ils ont un parcours formidable. Il y a qu'à voir les noms. Belgique, Croatie, c'est deux demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. L'Espagne a été championne du monde. Le Portugal a été champion d'Europe. C'est un parcours d'exception, voilà. Là où Giroud va être important, c'est que ce parcours aussi, il a donné du fil à retordre au Maroc. Et puis, c'est une dépense d'énergie. C'est sûrement, alors on ne peut pas quantifier ce genre de choses-là, mais c'est peut-être l'équipe qui a donné le plus de sa personne collective depuis le début de la Coupe du Monde. Et Olivier Giroud, au-delà de marquer, on lui souhaite évidemment de mettre un cinquième but, un sixième, un septième, tant qu'il veut, c'est ce qu'il va faire peser aussi sur la défense. Le match qu'il fait contre l'Angleterre pendant très longtemps, c'est pas un bon match, mais c'est un match où il va au combat tout le temps, tout le temps.
Il use.
Les ballons hauts, les relances de Lloris, il y en a une qui est arrivée sur sa tête d'ailleurs, c'était assez exceptionnel.
D'ailleurs, ça me fait penser, je crois que c'est Vincent Kompany qui disait que l'attaquant le plus chiant contre lequel il a eu à défendre, c'est Olivier Giroud, voilà. Parce que c'est un combat de tous les instants.
Regardez les duels, regardez comme il se positionne, c'est quasiment, on dirait, un pivot dans une raquette de basket.
Ouais,
c'est-à-dire
exactement
c'est
ça.
Au but, je joue des coudes, je pousse, je vais sauter pour mettre la tête, et bien au bout d'un moment, ça vous fatigue. Et quand déjà vous commencez à être un peu entamé par une compétition, par un match, et bien à un moment, c'est le combat, parfois c'est le combat trop. Contre l'Angleterre, pendant 70 minutes, a priori, à peu près, c'est pas terrible. Et puis ça bascule en 40 secondes, il y a sa reprise sortie par Pickford, le corner, puis le centre de Griezmann et sa marque. Voilà. Et c'est aussi une manière d'y aller à l'usure, parce que justement, pendant longtemps, c'est peut-être pas spectaculaire, c'est peut-être pas ce qui a fait complètement la différence, mais à force d'user les défenseurs, que ce soit Stones, que ce soit Maguire, et bien à un moment, vous finissez par le payer. Et c'est sûr que sur les dépenses d'énergie des deux côtés, je pense pas que l'équipe de France arrive demain plus émoussée que le Maroc. Donc ça sera aussi à Giroud d'appuyer très fort là-dessus.
Et en plus, sur une charnière qui pourrait être complètement inexpérimentée. Je rappelle quand même qu'Aguerd, qui est... Bon, les Rennais le connaissent bien, mais c'est un peu le patron de cette défense-là. Romain Saïs qui joue avec lui dans l'axe. Il y en a un qui est quasiment forfait à Gerd. Saïs qui est très, très, très incertain. Et donc, Giroud aura un rôle d'autant plus central au milieu de cette défense marocaine, qui sera déjà fragilisée par les absences de ces deux leaders. Les forces, la force de cette défense marocaine se reporte sur les ailes, Hakimi Mazraoui en gros. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, encore plus, Giroud aura une partie du destin des Bleus entre ses pieds. D'autant qu'on sent, enfin moi, c'est difficilement quantifiable, c'est difficile à exprimer, mais j'ai l'impression qu'il est quand même libéré, mais comme jamais. C'est-à-dire que, bon, alors il y a ce record, il y a, je pense, aussi le fait d'avoir marqué en Coupe du Monde, ce qu'il n'avait pas fait en 2018, mais on a l'impression. Et puis aussi son parcours en club qui, mine de rien, l'amène quand même lancé dans cette compétition. On a l'impression que c'est un mec aujourd'hui à qui tout sourit, qui vit un kiff mais monumental, qui, on le rappelle, à la base ne devait pas être là, ou alors qui a arraché sa place avec les dents, et donc qui est dans une espèce qui lévite comme ça au-dessus des matchs. Moi, je pense que la qualification, pour toutes ces raisons, passera par lui.
Ouais, et comme tu l'as dit tout à l'heure, Hakimi, Masraoui, Saïs sont restés aujourd'hui aussi en salle à se reposer. Donc, c'est une équipe qui a besoin de souffler. Et c'est pour ça que très vite, il faudra essayer de leur mettre la pression pour éviter justement de tomber dans le piège. Le Maroc, c'est un piège pour les Bleus, il faut le redire. Alors, Walid Regragui, lui, il vise la totale. Il veut que ses gars soient champions du monde. Et c'est formidable d'avoir ce discours-là parce que, bah, après tout, oui, il a raison. C'est une occasion unique. Il est là avec le Maroc. Bah, il reste deux matchs, donc autant essayer de les gagner plutôt que de se dire demain sortir avec les, j'allais dire, les lauriers, mais avec des lauriers de, comment dire, pas trouvé le mot, mais bon, tu me comprends.
Ouais, on t'a compris. Ouais. Je suis désolé, j'ai très peu dormi, je peux pas t'aider, Maxime, d'habitude.
Non, mais c'est-à-dire la satisfaction du parcours, oui. Mais de se dire, bon, bah, on va peut-être finir 3e ou 4e de la Coupe du Monde. Là, les gars sont, comme les trois autres équipes, à deux matchs de gagner une Coupe du Monde, ce qui est incroyable.
Et c'est ce qu'il dit, peut-être que ça n'arrivera plus jamais dans l'histoire. Alors, des équipes africaines, sans doute que si, mais dans l'histoire du Maroc, il faudra peut-être attendre 40 ans.
Ou donc, peut-être de sa vie à lui, tout simplement.
Ah, bah, de sa vie à lui, donc plutôt que de jouir de cette situation-là, en profiter pour y aller le plus possible. Mais justement, Maxime, moi, la question que je me pose avant ce France-Maroc, c'est qu'on a essayé d'identifier plein de menaces qui pourraient planer sur cette équipe de France. Parce qu'on ne va pas se raconter ici d'histoire, on se connaît trop, pour raconter des bobards. Quand Didier Deschamps dit c'est du 50-50, c'est un effet de manche. Aujourd'hui, l'équipe de France est archi favorite de cette demi-finale de Coupe du Monde face au Maroc. C'est une situation complètement inédite à ce stade de la compétition, puisque face à la Pologne, c'était à peu près pareil. Mais là, vraiment, demi-finale, jouer le Maroc. Maxime, pour toi, quelle est la plus grande menace qui plane au-dessus des Bleus avant d'affronter cette équipe ?
Ah, moi, je vois deux menaces. La première, vraiment sur le terrain, c'est-à-dire que le match dure, entre guillemets. C'est-à-dire que plus ça va, moins ça va. C'est toujours le remake justement d'une équipe qui est favorite contre une équipe qui l'est moins. On l'a vu Maroc-Espagne, on l'a vu Maroc-Portugal. C'est qu'à un moment, il faut essayer de faire la différence le plus vite. Et ça me fait penser à plusieurs égards à la finale de la Coupe du Monde 2018 où on savait avant le match que la Croatie arrivait sur les rotules. Elle avait fait trois prolongations, deux séances de tir au but. Alors le Maroc n'a pas fait autant. Et n'empêche que, je le répète, il y a une dépense d'énergie qui est accrue et qui est importante. À partir du moment où l'équipe de France avait pris le dessus, notamment en première mi-temps où ils n'étaient pas très bons, les Croates étaient bons, mais quand en deuxième mi-temps l'équipe de France a réussi à prendre les devants, c'était terminé parce que voilà, tout est relâché. Voilà. Donc il faut arriver pour les Bleus à pousser le Maroc très vite dans ses retranchements et très vite le mettre en situation défavorable parce que là, il y a quelque chose qui peut basculer au niveau psychologique. Niveau psychologique aussi, ma deuxième crainte, alors ce n'est pas vraiment une crainte, mais les Bleus vont quand même être dans un climat qu'ils ne connaissent pas finalement en Coupe du Monde. Parce que, alors, j'aime pas trop le terme, mais Deschamps aussi est revenu là-dessus, hostile. Non, c'est pas hostile. C'est qu'ils vont se retrouver en revanche dans un climat où une des deux équipes est beaucoup plus poussée que l'autre. C'est un peu le cas contre le Pérou à Yekaterinbourg il y a 4 ans.
Ou l'Argentine.
Sauf que là, il va y avoir, je pense que. Là, on parle de 14 000 supporters marocains, mais je pense que et 3 000 français. Je pense que le stade au 3/4, 1/10, ce sera pour le Maroc et c'est bien normal. On l'a dit, c'est la première Coupe du Monde organisée sur le sol arabe. Il y a quelque chose qui pousse aussi cette équipe du Maroc. Et évidemment, c'est l'habituel. On a envie de voir le petit pousset aller loin parce que c'est l'outsider, parce que ça fait plaisir. Donc, je pense que les Bleus, faut. Didier Deschamps en a parlé, donc je ne pense pas qu'ils seront surpris, mais c'est quand même quelque chose à intégrer parce que ce ne sera pas comme un match de Coupe du Monde habituel. Et Martin, toi, tu y étais, le match en Turquie en 2019, où ils s'étaient retrouvés dans une atmosphère qui était. C'est peut-être pas ce qu'ils attendaient, voilà, tout simplement, et ça les avait surpris en plus de ne pas être très bons sur le terrain.
Ah, bah, ils s'étaient fait désosser. Ils s'étaient fait désosser à Konya. Alors, c'était en quelle année ? C'était en 2019
ouais.
En juin 2019. Bon, après, le contexte était quand même complètement différent. C'est-à-dire qu'on était sur un mois de juin sans compétition internationale.
Le fameux.
Qu'une défaite en Turquie, ça ne mettait pas trop en péril les desseins de l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'il s'était fait cueillir, en fait. Cueillir par l'ambiance, vraiment, je pense. Vraiment cueilli par l'ambiance. Mais là, pour le coup, l'ambiance, contrairement, je pense, à mercredi, elle était hostile.
Ouais.
Là, c'était vraiment. Ah, c'était les ambiances turques, quoi, comme on connaît. Moi, je n'ai jamais vécu d'ambiance aussi forte pour un match de l'équipe de France. Je veux dire, même à la Coupe du Monde avec les Argentins et les Péruviens. Et oui, ça leur avait complètement coupé la chic, complètement coupé le sifflet. Là, j'imagine que ces bleus-là sont quand même mieux armés parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a Varane, parce qu'il y a Giroud, parce qu'il y a Lloris, parce qu'il y a Griezmann, parce qu'il y a Mbappé, qui sont quand même 5 raisons de croire qu'ils ne tomberont pas dans le piège parce qu'ils ont de l'expérience, ces gars-là, même si Mbappé reste encore très jeune. Donc, le côté hostile, sauf si, effectivement, comme tu le disais, ça s'installe et que d'un coup, tu as l'impression qu'il y a un rapport-force qui s'égalise et où là, effectivement, ça peut basculer dans les tribunes. Moi, ma plus grosse crainte, c'est comment on fait avec ce statut-là de l'équipe de France. C'est-à-dire que là, on est dans une demi-finale où ils ont une pancarte mais qui n'a jamais été aussi grosse. Alors, contre la Pologne en huitième de finale, je pense que tu peux t'en sortir en te disant c'est huitième de finale finalement, c'est normal. Quand tu termines premier de ton groupe, c'est comme ça que ça se passe. Là, tu as l'Angleterre, juste avant, où tu t'en es sorti juste, mais face quand même à un Cador. Et là, tu retombes face à un Maroc. Encore une fois, je ne dénigre pas le parcours du Maroc qui est sensationnel, on en a déjà parlé. Mais si tu perds face au Maroc, pour moi, et Didier Deschamps dira l'inverse, mais la compétition n'est pas réussie quoi qu'il se passe. Perdre face à une équipe qui n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale de Coupe du Monde en demi-finale, alors que tu es tenant du titre, alors que sur le papier, a priori, toutes tes individualités, sauf celle derrière droit, à la limite, bah, tu domines. Voilà, il va falloir en fait. Il va falloir que ce statut-là le digérer en fait. Et je sais. Voilà, j'ai très confiance en Varane, j'ai très confiance en Lloris, j'ai très confiance en ces joueurs-là. Mais malgré tout, je pense que c'est la principale menace sur cette équipe de France. Digérer ce statut-là, à ce stade-là, et j'insiste, de la compétition.
Et je rajoute un truc sur l'ambiance, c'est pas seulement l'ambiance contre. Il faut savoir aussi ce que n'importe quel sportif vous le dira, c'est-à-dire que vous êtes dans un stade de 67 000 places, vous avez 60 000 personnes qui vous poussent.
Et ça fait du bruit en plus, ça les fait supporters du bruit. Marocains, ils font plus de bruit que les autres.
Ça s'appelle, les Américains parlent d'extra énergie, bah, c'est ça. C'est typiquement de dire que vous êtes poussé par une force que vous n'arrivez pas à définir. Le France-Allemagne de 2016, des Bleus à Marseille, il y a de ça aussi, quelque chose qui vous porte, qui vous aide à vous surpasser. Et quand vous êtes fatigué, vous êtes bien content de l'avoir avec vous. Alors, on n'a jamais vu, comme dirait l'autre, on n'a jamais vu un 12e homme mettre un but. N'empêche que...
Ce que Didier Deschamps a dit d'ailleurs en conférence de presse.
Il l'a dit, quand ça pousse très fort, n'empêche que ça aide. Et je pense que Didier Deschamps le sait. Voilà. C'est une manière aussi de baisser la pression là-dessus. Mais je pense que c'est un élément à prendre en compte.
Mais alors, pour pas non plus noircir trop le tableau, le Maroc, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont avoir aussi... Il y a un aspect émotionnel très fort, je pense, pour le Maroc. Alors déjà, d'être arrivé là, d'avoir atteint déjà un premier but, Walid Regragui, il a évidemment balayé ça d'un revers de main. Et je pense qu'il veut aussi... en s'adressant à la presse et dire on veut gagner la Coupe du Monde, il s'adresse aussi à ses joueurs. Mais il y a quand même la puissance émotionnelle du moment, demi-finale de Coupe du Monde, là ça commence à être quand même très sérieux, un territoire inexploré pour une sélection africaine, et en plus jouer l'équipe de France, il y a beaucoup de joueurs de cette sélection nationale qui ont des liens particuliers avec l'équipe de France, pour n'en prendre qu'un, Boufal est né en France. Ce sont les champions du monde, et Regragui l'a dit, c'est la meilleure équipe du monde. Donc c'est encore autre chose que le Portugal, que l'Espagne, que la Belgique et la Croatie. Et en plus, c'est à 90 minutes d'une finale de Coupe du Monde, ce que personne, je pense, dans cette sélection n'aurait imaginé. Donc là, il y a un aspect émotionnel très fort où il ne faut pas vriller. Et je pense que ce qui a fait mal à la France à l'Euro 2016 en finale, ils n'ont pas su, je pense, gérer cet aspect émotionnel des choses, ou ce qui a fait mal aussi, d'une certaine manière, avec le physique, mais à la Croatie en 2018.
Et puis tu disais, Boufal est en France, mais c'est aussi le contexte historique plus lointain, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont en France, qui sont nées en France, qui sont nées au Maroc, elle est binationale, ça. Donc c'est vrai que ça rajoute quelque chose. Mais positivement, on n'est pas en train de dire une forme de revanche. Non, c'est pas
non,
ça.
Non, mais je pense qu'il faut le gérer.
Ça joue dans l'émotion. Voilà, c'est pas comme si le Maroc se retrouvait, face à. Je vais vous donner un exemple. Face à l'Argentine, par exemple. Il n'y aurait pas exactement. Il y a toujours le prestige, mais il n'y aurait pas ce côté émotionnel en plus qu'il faut absolument, évidemment, prendre en compte. On peut pas. En fait, il ne faut pas le nier, en tout cas. Il faut le garder, essayer d'en faire une force plutôt que de dire non, ça ne fait rien. Parce que c'est une fois qu'on est sur le terrain, quand il y a les hymnes et tout ça, qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre.
Bon, après, là, on vous dit plein de choses, puis demain, on dira le contraire. Hein, parce que selon comment le match tourne, vous commencez à connaître.
On est journaliste.
On est journaliste,
mais
au-delà de ça.
Non, mais c'est la limite de. Alors, on arrive à la fin de l'émission, donc on peut dire les choses.
non, mais bah, pas trop long non plus.
C'est la limite de toute analyse, mais c'est aussi c'est la modestie de dire que on peut avoir. C'est comme un entraîneur. Vous pouvez avoir le meilleur plan de jeu, la meilleure idée, sauf qu'au bout de 2 minutes, votre joueur prend un carton jaune, votre joueur prend un rouge, votre joueur se blesse, et là, ça change tout. Et ben, bah, c'est un sport, c'est un ballon qui roule, qui parfois tape un poteau, qui va le taper 2-3 fois, et on peut pas le définir ça. Non, mais c'est ça.
Tu as raison.
Rappelez toujours que c'est un jeu, voilà. Et c'est ce que j'aimais bien quand Michel Platini, pour les plus anciens, se rappelle quand il commentait les matchs sur Canal. Quand on lui montrait les palettes et tout ça, il disait bah non, mais les gars, c'est un jeu. Donc là, il a juste raté son contrôle. C'est ça qui a fait la différence.
Il faut rappeler deux choses. Rappeler que c'est un jeu et rappeler que Maxime chantera si la France se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde. Je vois son front perlé parce que je sais qu'il voit le stress monter.
Non, pas encore.
Et je pense que demain, Maxime va se trouver des origines marocaines ou des raisons pour supporter le Maroc. Je pense qu'il n'a pas très envie de chanter devant vous. 30 secondes, c'est long. On mettra le chronomètre.
Ouais, c'est surtout ça. Parce que chanter, on mettra la rigueur,
et puis bah chanter seul dans un studio. 30 secondes.
Il faut que je trouve quoi chanter en plus. Donc
Oui, mais tu t'en sors pas par une pirouette. Genre, tu nous fais pas du grand corps malade, quoi. Alors, on a dit chanter. Alors, pas chanter.
Du grand corps malade, ça m'étonnerait. Mais bon, je vais bien trouver un truc.
Il va s'en sortir. Je le connais parce que c'est un fourbe, ce Maxime. C'est un fourbe, on le pratique. Évidemment, il va s'en sortir par une pirouette. Il va nous chanter un truc. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire, mais...
Un peu de Imuvrini.
Ah ben ça, ce serait audacieux. Ça, ce serait audacieux. Ou du Pavarotti, du Céline Dion. Voilà, du...
Ah, c'est le dernier qui devait chanter, il n'est pas venu chanter. Hein, parce que là, c'est facile.
Mais il a pas fait... Il s'est pas engagé auprès d'un internaute sur Instagram.
Ouais, mais quand même.
Ouais.
Il pourrait venir chanter avec moi.
Alors, par contre, à sa... Parce que là, je le charge, mais Maxime tient sa parole.
Salut, go.
Là, t'as tenu ta parole.
Deux.
À midi, tu m'as offert un restaurant.
Ah oui, oui, oui.
Ah bah oui. Parce que le pari, c'était... J'avais parié que le Sénégal irait plus loin que l'Allemagne dans cette Coupe du Monde. Je connais un petit peu le football.
Et t'avais retiré ton pari.
Tu avais retiré ton pari. Je connais un petit peu le football. Voilà. Et donc, Maxime s'est astreint à effectivement sortir la carte bleue. Enfin bon, c'était des chèques resto, donc c'est pas non plus... c'est pas non plus, ça l'a pas ruiné quoi, bref. Et pour me payer un joli restaurant colombien. Et donc, bah merci. Voilà.
Une part de flan aussi.
Et une part de flan. De flan à la fève de Tonka à 5 euros la part en plus. Donc je peux vous dire...
Ah, mais tu vois, on va passer pour des...
Bah non, mais oui, pour des richesses. Bah allez, t'as un peu de fric Maxime, t'es quand même chef ici. Donc voilà. Donc, je tiens à te féliciter dans la France entière d'avoir tenu ta parole. Tu es un homme de parole. Donc, potentiellement, dans 24 heures, tu pousses la chansonnette ici même.
24 heures, non, je dis jusqu'à dimanche.
Il repousse le moment. C'est reculé pour mieux sauter. Il va falloir y aller, mon Maxime. Il va falloir y aller.
Attends de voir le résultat de la demi-finale.
C'est vrai. Ne soyons pas trop confiants. Ne soyons pas condescendants. Rendez-vous demain pour le débrief de France-Maroc. Sur le site, ce sera environ vers minuit. Adrien, si tu vas un peu plus vite que d'habitude, parce que tu es quand même toi aussi une grosse feignasse. Voilà, assez Seb. Alors, on est encore plus mal barré. Merci Adrien. Merci Marco Popovic pour les visuels. Et puis, bah, rendez-vous demain pour
l'homme
débrief.
L'homme de Belgrade.
L'homme de Belgrade, exactement. Rendez-vous demain pour un débrief de demi-finale de Coupe du Monde, les gars. C'est
je pas
tous
si
les jours.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Ouais. Soyez là.
Mais pour la France, c'est tous les 4 ans. C'est plutôt pas mal.
Mais ça ne durera peut-être pas.
Non.
C'est pas éternel tout ça.
Et non.
Comme toi, Maxime.
Rien n'est éternel.
Ciao, ciao.
Salut.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.